Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Florent Gautreau est là en direct du studio d'RMC à New York, 21h01. Vous allez déjà chourer là aussi à mes côtés. On est ensemble jusqu'à 5h du matin française, 3h. En France actuellement. Dans un instant, on prolonge le débrief de la victoire du Brésil ce soir, qualifié premier de son groupe, qui donc verra les 16e de finale. On en parlera aussi du tableau brésilien. Ce sera Japon ou Suède pour les Auri Verde. Neymar au programme dans un instant. D'abord, les coups d'envoi depuis 1 minute 30. On joue dans ce groupe qui oppose la... Je ne vais pas dire Tchéquie, j'en ai marre. Je suis d'accord avec Jean-Louis Tour, c'est moche, Tchéquie. Tchéquie, c'était nos grands-parents qui disaient ça, hein, Flo. Hein.
Oh, moi, ils disaient République Tchèque. Slovaquie, mes grands-parents.
Oui, t'as raison. Alors, nos parents disaient Tchéquie. Nos parents disaient Tchéquie. Ouais. République Tchèque, Mexique, à Mexico. Valentin Jamin, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Tchécoslovaquie, finale en 1934 et 1962. C'est le meilleur parcours officiel de la Tchéquie, mais ce n'était pas vraiment la Tchéquie.
Pour moi, c'est l'Euro 96. Voilà, République Tchèque.
Hein, aussi.
Flo, la France. Fait.
Poborski,
et puis c'est aussi...
Smisser. Et tu te rappelles comment s'appelait
Pedros.
Le sélectionneur?
Mais Pedros surtout. Hein? Tu me dis que oui, c'est Pedros.
Mais tu parles des Tchèques, je ne te parle pas des...
Ah oui, d'accord.
Tu te rappelles comment s'appelait le sélectionneur?
Non.
Dusan Urin, et on aimait beaucoup les analyses d'urine à la fin des matchs.
Ouais, pas mal. Là, on est dans l'after, là, hein, les amis. Salut Jean-Louis, Afrique du Sud, Corée du Sud.
Salut Nico, salut tout le monde. C'est parti. 0-0 depuis 2 minutes 30, c'est parti. Pression sur l'Afrique du Sud qui n'a qu'un point, qui est obligé d'aller gagner cette rencontre contre la Corée qui en compte 3 pour cette dernière journée de ce groupe. Et l'Afrique du Sud qui a mis une équipe offensive, hein, donc à mon avis ils vont tout lâcher, 4 attaquants pour cette rencontre, donc pour espérer aller chercher la victoire.
Voilà pour les enjeux de ce groupe, bien sûr, on va suivre ça en...
Je vous ai pas dit le temps, le score quand même, on a parlé de la Tchécoslovaquie, ouais. Messieurs, mais je vous ai pas prévenu qu'il y avait 0-0, 3 minutes de jeu, et que l'enjeu, il n'y en avait pas pour le Mexique qui est premier, alors que la Tchéquie doit gagner pour espérer se qualifier. Et on n'a pas mis Patrick Schick en attaque, c'est la petite surprise, Pavel Sulc est bien là, mais le buteur du Bayer Leverkusen n'est pas là. 3 changements dans l'équipe de Tchéquie, 5 dans l'équipe du Mexique, qui donc n'a plus rien à jouer, et pas de Memo Ochoa, le gardien qu'on espérait voir titulaire au Mexique pour sa 6e Coupe du Monde, qui est resté sur le banc.
Bravo Valentin, t'as raison. D'autant plus sous le regard attentif du chef du foot qui te suit. C'est la rigueur, Valentin Jamin. Voilà.
Il y a déjà une première occasion pour la Corée du Sud, hein, avec la tête de Kim In-hye sur corner, sauvé sur la ligne par Modiba, et derrière contre-attaque avec Moko Feng qui a failli récupérer le ballon, l'attaquant sud-africain, mais ballon un peu trop profond. 0-0 toujours.
Valentin Jamin et Jean-Louis Tour, c'est eu l'équipe de France également. On parlera des Bleus tout à l'heure, les infos d'RMC Sport, la composition probable à 2 jours du duel face à la Norvège. Pas mal de changements attendus dans le 11 de Deschamps et de Guy Stéphane, qui sera sur le banc ce vendredi. Alors, le Brésil, on prolonge bien sûr. Parlons quand même globalement de ce match-là. On a parlé de Matheus Cunha. 3 buts déjà, invité un peu surprise, qui progresse également en première ligue à Bournemouth. Igor Thiago, on sait maintenant, va se tirer désormais.
Matheus Cunha, c'est United.
Cunha, c'est United.
Oh, oui, n'importe quoi. Ryan, c'est Bournemouth.
Autant pour moi. Matheus Cunha, 3 buts déjà. Je disais, Igor Thiago va se tirer désormais.
Oui.
Je crois que c'est plié maintenant.
Igor Thiago, pas Igor Jesus.
Oui.
Quoi?
Igor Thiago.
Oui.
J'ai dit Igor Thiago.
Non, c'est Walid tout à l'heure qui a dit Igor Jesus.
Ah, d'accord, Igor Thiago.
Donc là pour se mettre des balles en fait, c'est ça. C'est ça, on est là pour décrédibiliser l'émission.
Mais c'est vrai qu'en tout cas Igor Thiago, par rapport à son premier match, est-ce qu'on a vu de Cunha contre Haïti et surtout contre l'Écosse, dans sa mobilité, dans les appels qu'il peut avoir, dans sa faculté à impacter le pressing du Brésil. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux. Et puis surtout, avec Vinicius, on sent une alchimie qui est différente. Donc, et puis même en termes de niveau, moi, Matheus Cunha, que ce soit à Wolverhampton, à l'Atlético de Madrid ou même à Manchester United, c'est un joueur qui est bien meilleur et qui est bien plus, qui a une palette bien plus globale qu'Igor Jesus. On pouvait attendre Hendrick.
Igor Thiago, pardon.
Mm. On pouvait attendre un Hendrick axial. Finalement, Hendrick est rentré sur le côté. Parce qu'on va sûrement décrypter la rentrée de Neymar. Mais celle d'Hendrick aussi est intéressante, c'est qu'il ne le voit pas comme un numéro 9. Et donc oui, Cunha sera, je pense, le numéro 9 sur la suite de la compétition, et c'est bien mérité.
Mmh. En fait, c'est vrai que le pressing, le jeu haut était intéressant. Et dans ce jeu haut, effectivement, même Vinicius, j'ai trouvé fort aussi sur la pression sur les adversaires. C'est-à-dire qu'il est bon, il était à droite, il est là, il est très bon, on le sait, il est en confiance. Mais c'est vrai qu'on a une équipe type, et d'ailleurs pour Hendrick, ça veut dire, ça signifie sans doute qu'il va faire des bouts de match maintenant et des entrées en jeu simplement. Et à mon avis, c'est son niveau, c'est normal, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. Après, le seul truc comme disait Walid, là, sur lequel on peut revenir, parce qu'à mon avis, enfin, après, ça va nous permettre d'enchaîner sur Neymar, c'est le milieu. Parce qu'en fait, le truc, tu sais à peu près qui tu vas mettre derrière, tu sais à peu près qui tu vas mettre devant maintenant. Et en fait, au milieu, si Neymar, à un moment donné, revient dans le jeu, comment t'organises ton équipe au milieu? Comment tu gères Paqueta, qui fait encore un non-match aujourd'hui, alors que c'est un match facile où tu peux t'illustrer? Moi, là, et même Casemiro, que je trouve pas terrible depuis le début de la Coupe du Monde, je sais pas exactement, tu vois, comment tu peux améliorer ça. Et à mon avis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même au milieu, enfin, en foot, c'est au milieu que tout se passe. Sur le banc.
C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça incarne la pauvreté générationnelle.
Et le problème, c'est
Paqueta titulaire, inamovible.
Est-ce que tu as mieux sur le banc? J'en doute, même si Fabinho a fait une belle entrée contre le Maroc. Le rythme de Fabinho, c'est quand même un rythme plus de 45 à chaque fois qu'il a le ballon. Donc c'est compliqué. De toute façon, ils vont y aller comme ça. Peut-être avec une équipe qui, sur les prochains matchs, ils vont se refaire la cerise physiquement.
Martinelli a aucune partition à jouer là-dedans?
Non, c'est dur, même sa rentrée là, elle est pas bonne. Et après, t'as quand même une charnière centrale qui reste quand même pour moi très solide et qui peut te faire gagner quelques matchs. Et puis, il faut en parler quand même, parce qu'on en a pas encore parlé, mais c'est l'équipe de Vinicius. C'est l'équipe de Vinicius. On a souvent critiqué Vinicius à juste titre dans son impact avec cette sélection qui était très très différent de ce qu'on pouvait voir avec le Real Madrid. Là, c'est l'équipe de Vinicius. Moi, je revois le Vinicius Real Madrid sous Carlo Ancelotti avec une vraie tactique mise en place pour le mettre dans les meilleures conditions. Et il a l'état d'esprit, il emmène tout le monde sur son dos avec le pressing, avec ses différences, avec son efficacité. Et quand on voit les statistiques qu'il a depuis le début de la compétition, bah c'est du même niveau qu'Mbappé. C'est du même niveau qu'Alande, que Léo Messi, et c'est une star de plus qui rayonne. Et il y avait une grosse équation, il y avait une grosse question sur le duo Rafinha-Vinicius. Est-ce que ces joueurs-là pouvaient être capables d'emmener le Brésil loin? Là, moi, je suis quand même rassuré par le niveau de Vinicius. Clairement, c'est le Vinicius qu'on aime, c'est le Vinicius létal, brutal, et qui peut changer la dimension du Brésil dans cette compétition. En tout cas, sur les prochains matchs, 16e et 8e de finale, la suite c'est autre chose, mais déjà si le Brésil en est là, Nico, si le Brésil est premier de sa poule, c'est en grande partie grâce à Vinicius Junior, c'est le grand acteur de cet accomplissement.
4 buts pour lui déjà dans ce mondial. D'ailleurs, Vinicius est le 5e joueur brésilien à avoir marqué un but dans les 3 matchs de la phase de poule. C'est une même Coupe du Monde, dans les 4 cas précédents, le Brésil a été champion du monde.
Oui, ça, après, il y a de la route, mais
non, mais je plaisante. Oui. C'est anecdotique. Juste pour dire qu'avant lui, c'est Jairzinho en 70, Romario en 94, Ronaldinho en 2002, Ronaldo, en 2002, et Vinicius. Ronaldo et Rivaldo en 2002, d'ailleurs. Oui. Vinicius en 2022.
On n'a jamais eu d'image avec Vinicius, hein, au Brésil, hein, faut le rappeler, mais la Copa América, il y a 2 ans, a été catastrophique. Ils se sont fait sortir en quart de finale, il a pas été bon du tout. Ce qui lui avait coûté son ballon d'or, au passage, avec Rodri qui avait gagné l'Euro. C'était un joueur lambda avec le Brésil, Vinicius. Et là, on commence à avoir un album photo intéressant.
On jugera après, encore ça, plus précisément sur les matchs suivants.
Oui, mais ça, j'ai un peu de mal. Moi,
Moi, j'ai un peu de mal.
Moi, non, parce que j'en reviens toujours à ça un peu dans mon analyse. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir les points tactiques ou sur les choix de joueurs qui fonctionnent. Genre Ryan, le pressing haut de l'attaque, ça marche. Ok, tes joueurs, tu les as, t'as une attaque à 3, très bien. Tu l'as dit, il y a une vraie charnière identifiée. Titulaire, pas de problème. Mais encore une fois, même Vinicius, et une nouvelle fois, j'en reviens à mes buteurs, les neufs et les buteurs en général des équipes qui marquent relativement facilement. J'en reviens encore à cette première action où l'Écosse donne le premier but. C'est des matchs où pour eux, c'est quand même, pour Vinicius, c'est quand même de la crème, c'est facile pour lui. On va voir si ce sera aussi facile. Oui, mais Vinicius.
Non, pour moi, c'est différent. Dans ton baromètre, là, qui est intéressant, hein, sur les stars qui marquent, moi, en fait, je mets des nuances. Vinicius qui marque contre le Maroc alors que le Maroc roule sur le Brésil.
Ça, d'accord, mais là, ce soir.
Non, mais moi, je prends la globalité de sa phase de poule. Mm-hmm. Sur la globalité de sa phase de poule, en fait, ce que fait Vinicius dans une équipe du Brésil défaillante en prenant son, son rôle de leadership.
Moi, je parlais de ses stats. Parce qu'en fait, on va dire, si on dit, on cumule, puis on dit, t'as vu, 3 buts, t'as vu l'autre, 5 buts.
Oui, mais sauf que c'est la première Coupe du Monde où Vinicius est à ce niveau-là, que la réalité du Brésil n'est pas celle de l'Angleterre, ou n'est pas celle de l'Argentine, ou n'est pas celle de l'équipe de France, où pour moi, ce sont des favoris à la gagne. Mm-hmm. D'accord? Donc, moi, pour moi, la réalité du Brésil, déjà sur une phase de poule, elle était déjà en questionnement, Flo. Au début, on se disait, mais attends, après le match contre le Maroc, ou même après les 25 premières minutes, qu'est-ce que va faire le Brésil dans ces matchs-là? Et Vinicius, encore plus avec la blessure de Rafinha, était attendu à l'accueil.
Oui, mais justement, je me permets de te couper à ce moment de ta démonstration. Je veux juste te dire que c'est une bonne nouvelle pour le Brésil. Tu vois, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Brésil, parce qu'il est en confiance, parce qu'il a sa position, parce que ça va peut-être être sa compète. Mais je ne dis pas que c'est pour autant une performance dingue de voir Vinicius. Tu vois,
c'est dingue.
Tu vois, on le retrouve comme un niveau.
C'est dingue, mais c'est déjà des choses.
C'est plus l'occasion pour les équipes de s'organiser, de se construire et de trouver des certitudes là où ils en avaient pas au début. Ça, c'est énorme. En fait, c'est énorme. Plus que attention, grosse performance XXL aux yeux du monde.
Mais en tout cas, sans Vinicius, le Brésil et deuxième de poule, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que même quand le Brésil a été en grande difficulté dans le jeu, Vinicius a pris la responsabilité du joueur fulgurant, ce qui change le résultat du Brésil. Et ça, pour un joueur, alors peut-être que là où t'as raison, c'était le côté anormal de Vinicius qui était pas bon avec le Brésil.
Bien sûr.
Mais ce côté anormal, moi, me rehausse la performance de Vinicius, parce que je n'avais jamais vu ça avec le Brésil. Après, et qu'il a une énorme pression aussi au pays, aujourd'hui.
Mais tu sais, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est-à-dire que là, Vinicius, il brille dans une équipe où à côté, t'as Cunha et t'as Ryan, un jeune de 19 ans, tu vois, où t'as pas la concurrence que toi.
Mais il doit les prendre sur le dos, et je trouve qu'il les prend sur le dos.
Non, mais là, il fait le job, on va pas le reprocher, en tout cas.
Maintenant, je suis d'accord avec vous, oui, contre le Japon, demain, si Vinicius fait gagner le Brésil contre la France ou contre l'Allemagne, ce sera bien évidemment différent. Là, on emploiera des mots différents, mais il a fait le boulot, ce qu'on attendait de lui, et déjà, ça, c'est à valoriser.
Vinicius, tiens, on va faire un détour par les matchs qui ont débuté il y a maintenant environ 13 minutes. République tchèque, Mexique, avec toi Valentin Jamin.
13e minute de jeu, donc 0-0 à Mexico. Le Mexique assuré d'être premier, qui s'est fait peur avec une frappe de Wisinski après un centre contré de la droite de Pavel Sulch. Il a frappé trop croisé, était presque parti célébrer le joueur du Victoria Pilsen, et finalement s'est passé à côté. C'est la plus grosse opportunité, ils ont répondu les Mexicains avec Martinez et Romo, qui ont très mal joué un coup en attaque. Ils se sont échangés des passes et l'angle a fini par se fermer. Possession plutôt mexicaine, mais pour le moment c'est équilibré. 0-0, 13e minute de jeu.
Afrique du Sud, Corée du Sud, Jean-Louis Tour.
0-0, 13 minutes également. Une énorme occasion pour la Corée du Sud, pour Kang In-Lee, dans un fauteuil pour lui. Il est arrivé vers l'axe en conduisant le ballon du pied gauche dans la surface de réparation. Il l'a envoyé premier poteau. Le ballon a été légèrement dévié par Mbokassi, qui a permis donc de passer juste à côté du poteau. Mais donc la première grosse occasion est sud-coréenne. Mais les Sud-Africains se montrent quand même entreprenants, hein, eux qui ont complètement raté leur match d'ouverture contre le Mexique. C'était mieux contre la République tchèque. Et là, grâce à cette attaque notamment à quatre joueurs, ils arrivent à se montrer dangereux. Peut-être avec ce ballon, justement, la tête de Makbopa, mais qui n'est pas cadré. 0-0, toujours 14 minutes de jeu.
Alors, les amis, on va parler maintenant du Ney, bien sûr. On en a fait des débats avant le match avec toi, Flo. Est-il l'attraction numéro 1 de cette phase de poule du Mondial, alors qu'il n'apparaît que lors de la toute fin de la troisième journée? Neymar, le suspense, le feuilleton, combien de temps va-t-il jouer aujourd'hui? On savait qu'il serait sur le banc. Ancelotti l'avait dit, il est apte à faire quelques minutes. Il peut jouer pendant 90 minutes en marchant, c'est pas un problème pour lui. Finalement, il est entré à la 76e minute de jeu, Neymar. C'est très dur, on n'a pas de matière, bien sûr. Pour savoir, il a fallu scruter. On a mis une camiso Flo Gautreau, une cam Gautreau.
J'aurais préféré être au stade
pour sur Neymar.
Non, mais c'est vrai. C'est
pour l'ambiance.
Non, pas pour ça. Mais pour justement pouvoir voir aussi dans ses replacements, dans ses courses, un peu de ce qu'il a fait. Parce que
oui, t'as raison.
Les rares fois où je l'ai vu, j'ai vu à un moment donné une sorte de transition brésilienne. J'essaie de regarder à quelle vitesse, tu vois, il arrivait à se projeter. Ça m'a pas paru ultra concluant. Voilà, mais j'ai pas.
Je suis parti. Je précise. Ouais. Des très très sceptiques.
Très sceptiques, bien sûr. Non, mais faut partager le truc de dire Neymar nous a fait rêver, et de le voir, c'est fabuleux, et tout le monde est très content. Je suis ravi pour lui, il fait la Coupe du Monde, les Brésiliens le veulent, sont contents de le voir, tant mieux. Et puis j'ai vu J'avais vu un de ces derniers matchs là sur le terrain où ça faisait mal quand même de voir parfois, tu vois, sur certains appuis, sur certaines, surtout sur la récup et après les courses, sur toutes ces, voilà, toutes ces choses là. Donc honnêtement, c'est très dur de juger ce soir. Ils ont essayé de le chercher, ses partenaires ont essayé de le chercher quand même plusieurs fois. Il a mis une frappe enroulée, cadrée dans les bras du gardien. Rien de fou, mais rien de raté non plus. Il a perdu peut-être son premier ballon en entrant.
On n'en sait pas plus.
Difficile à juger.
L'info, c'est qu'il peut rejouer. Voilà. Ce qu'il a rejoué.
Il y a plein de joueurs qui peuvent rejouer. Tu sais,
pour lui, c'est déjà énorme.
Oui, je sais bien. Ouais, non, mais ce que je veux te dire, c'est que physiquement, on ne peut pas dire. D'abord, moi j'ai le sentiment qu'Ancelotti, s'il avait été plus fort physiquement, il l'aurait fait entrer avant. Moi, j'ai la sensation qu'il a attendu l'ultime possibilité pour le faire jouer, on va dire, 14, 15, 20 minutes maximum, parce que justement, il est encore dans une phase de reprise.
Écoutez, c'était la 76e minute de jeu au Miami Stadium. L'entrée de Neymar, ça a fait du bruit. En fait, c'est quasiment un but. Tu sais, t'as le son d'un but marqué en Coupe du Monde. Neymar, alors bien sûr, icône populaire. Il y avait beaucoup de Brésiliens dans le stade. C'était important Miami. De le préciser. C'était à Miami, grande communauté brésilienne, plus tous ceux qui ont fait le voyage pour ce match, qui finalement est le match le plus proche du pays, du Brésil en l'occurrence. Ça t'a fait quoi? Parce que moi, en Coupe du Monde, je suis un gogo. Voilà, je te le dis. Oui. Moi, Neymar, je suis très heureux de le voir là. Ça me fait plaisir. J'ai eu des frissons quand je l'ai vu rentrer, lever les bras, le nez, heureux de revenir.
Moi aussi, ça m'a fait quelque chose. Je suis un grand fan du joueur, de ce qu'il a réalisé dans sa carrière, et de ce qu'il était, de ce qu'il avait dans les pieds. Donc bien évidemment que ça m'a fait quelque chose et que ça faisait partie de l'attraction de la journée de revoir Neymar sur un terrain de foot avec ce maillot de l'équipe du Brésil, le numéro 10. Au passage, maillot exceptionnel. Vraiment, je celui de cette année, même s'il n'y a pas d'immenses différences.
Le bleu ou le jaune? Le jaune, surtout.
Non, le bleu, j'aime pas du tout, mais le jaune, ouais. Je trouve exceptionnel. Que ce soit le flocage ou même les traits, je trouve très, très, très beau. Et donc, de le revoir dans cette tunique, ça m'a fait quelque chose. Après, moi, j'ai toujours dit, quand on faisait les émissions, que, il y avait un fantasme. Voilà, c'est un fantasme et on a envie d'y croire. On a envie de croire à cette magie de la Coupe du Monde, ce côté Disney, là, qu'on évoque avec Flo, depuis plusieurs jours. Il joue quand même sur des œufs, quand même, sur sa rentrée, moi, je trouve, hein. Je trouve que les appuis sont très lourds. J'ai quand même regardé, peut-être que je suranalyse, mais j'ai regardé de très très près. Hein. J'étais en caméra isolée de Laurent Larchand sur les prises de balles de Neymar. Bon, contrôle passe, de la passe safe pour se remettre en confiance, mais on sent que dès qu'il y avait une petite conduite de balle avec un peu plus d'explosivité ou même avec un grain rapport au ballon, où on parle quand même l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire, on sentait que c'était pas le Neymar qu'on a connu. Très dur de juger sur aussi peu de minutes, mais l'entrée ne m'a pas rassuré sur l'état physique et sur ce qu'il pouvait apporter dans un football où ça va trop vite, en fait.
Ça va aller encore plus vite.
Et puis surtout, il demande le pied ballon. Ouais. On sent qu'il peut pas faire d'appel, quoi.
Nous ont parlé de Messi, tu sais, dans le match qui précédait le mondial, avait dit, c'est vrai que le Messi dans le match de préparation était vraiment impressionnant, déjà. À la fois, dans tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les petits appuis, quand il y a le ballon, parce que Messi, quand il n'y a pas le ballon, de toute façon, il fait pas grand chose, mais bien placé. C'est une chose affûté dans les petits
explosifs sur les premiers mètres.
Explosifs sur les premiers mètres, les petits pas.
Il bondit.
Voilà, les petits pas et le reste. Et après les passes, beaucoup plus tranchantes et qui passent plusieurs lignes. Bon, tout ça, voilà. Donc ça se voyait dans le match de prépa. Là, quelque part, admettons qu'ils sont un peu en retard, lui, sur sa prépa, Neymar. Donc effectivement, tu le regardes un peu comme ça. Bah voilà, t'as raison. Moi, il y a un truc sur justement ces appuis.
Les appuis.
Parce que quelque part, qu'est-ce qu'il va faire comme diff? Soit éventuellement une frappe, parce que là, il a quelque chose qui peut
le déclencher. Ou déclencher.
Il a pris des corners. Ouais. Okay, ouais. Et puis même dans l'axe, peut-être ça, il peut faire.
Il a un très beau service pour Gabriel sur corner.
Donc, voilà. Mais après, pour le reste, c'est des différences. Qu'est-ce qu'il va faire comme différence s'il n'a pas les petits appuis qu'il avait avant? C'est tout. C'est même si tu t'appelles Neymar,
même
tu sais dribbler.
Toi, ta comparaison avec Messi qui n'a pas la capacité à conduire le ballon et à slalomer comme avant, c'est un mec qui fait des espèces de checkpoints avec ses partenaires, où il s'appuie.
Mais c'est
un,
ça.
Deux, 1-2. Mais il a quand même la capacité à pouvoir aller vers la passe qu'il donne à son partenaire. Ouais, avec quand même un semblant de.
Il n'y a pas volonté de porter le ballon chez Messi.
Exactement. C'est,
alors que Neymar se définit comme ça.
Voilà, je fais vivre.
Porter le ballon, c'est pas l'enjeu pour Messi.
Il peut le faire et surtout, moi j'avais l'impression d'être, tu sais, comme au Bled à l'époque, en fait, avec un sol très brûlant sans claquettes, quoi. non mais t'avais
t'étais vraiment je pense t'exagères un peu là, ouais,
peut-être, mais non, j'exagère, mais
à la
mais
plage
c'est toi qui étais un peu craintif peut-être pour Neymar.
Non mais il était, quand il prenait le ballon,
pas suranalysé,
mais plus de 15-20 secondes je sentais que sur ses appuis c'était délicat, c'était compliqué, il était pas à l'aise. Après, à voir, mais le gros problème c'est que là on rentre dans les 16e de finale là,
c'est ça,
c'est-à-dire que comment tu vas avec cette rentrée, comment tu le gères,
tu vas le gérer, parce que beaucoup vont le réclamer, t'imagines, dès le début du match.
La vraie question, c'est ça. C'est... Non, mais.
Il n'y a pas un mec raisonnable qui le met d'entrée.
La vraie question, c'est ça, c'est que, en fait, on est un tel état de non-préparation, d'impréparation, et là, de peu de minutes, parce que même s'il n'est pas si mal, il a fait que 16 minutes, que comment tu vas faire pour, comme je disais tout à l'heure, changer ton équipe, quand bien même il rentrerait, il serait pas titulaire, mais il rentrerait en cours de jeu, comment tu vas l'intégrer en te disant vraiment, je l'intègre parce que là, il est bien, il va me faire la différence. Non, il est potentiellement, il peut te ralentir, il peut te compliquer les choses.
Oui, il a raison, Ancelotti, et Lucide aussi, il est pas dupe.
Non,
Neymar peut lui rendre des services sur des fins de match, éventuellement.
Moi, je pense, je vais te dire,
éventuellement, mon sentiment, ça dépendra du scénario du match aussi.
Mon sentiment, c'est que Ancelotti, au tout début, quand il y a eu la blessure, il s'est dit, bon, je dis pas tant mieux, hein, mais je vais dire, bah ok, là déjà c'est un problème de moi à gérer, puisque je vais faire mon équipe sans lui au départ. Et personne ne m'en voudra, personne ne dira, il faut le faire jouer. Maintenant, il le fait revenir progressivement. Lui voit bien qu'il n'est pas totalement prêt, donc on est encore dans une phase où il sera légitime de ne le faire jouer que des portions de match. Mais la question était, est-ce que ce Brésil-là, qui se cherche au milieu de terrain et même au milieu de terrain offensif, est-ce que l'arrivée, enfin le retour de Neymar pourrait être décisif? Je maintiens ce que j'ai dit avant la rencontre. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut dire non. La rentrée aujourd'hui, le fait que Neymar puisse être là sur le banc et en sortie de banc, ça ne changera pas grand-chose à cette équipe du Brésil.
Il faut compter
sur ce qu'on a vu et sur les autres et toutes les analyses qu'on a faites sur les autres.
Moi, j'attendais de voir s'il pouvait être une alternative à Paqueta en 4-2-3-1, notamment dans ce rôle, dans ce lien entre le milieu et l'attaque. Je force est de constater qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité de démarrer un match. Un match coup près.
Et je pense qu'il démarrera pas un match, les gars.
Mais voilà, mais oui, bah.
En tout cas,
moi, je.
Ça fait 4 ans.
J'ai un devoir d'honnêteté envers ceux qui nous écoutent, malgré.
Ah, ça j'aime bien. Mais là, on dirait un homme politique des années 80.
Mais malgré l'enflammage.
Je dois être honnête avec vous. En toute transparence.
Malgré le côté passionné, etc., il faut être à un moment donné lucide.
Non, mais pas que tout le monde est d'accord.
Voilà.
Je crois que le débat n'existe pas réellement, à part quelques membres de la secte, la religion Neymar.
Flo savait que, de toute façon, c'était plutôt le popular opinion, quoi. C'était un tapine de dire, quoi, Neymar, physiquement, il est pas prêt. Moi, j'attendais quand même de voir. J'ai vu. Et pour l'instant, je pense qu'Ancelotti, ce sera une variable d'ajustement dans une prolongation, dans une fin de match, ou si ça se passe bien en 16e de finale à la 70e minute. Mais même là, à 3-0, tu disais quand est-ce qu'il allait le faire rentrer.
On se posait la question.
Moi, je pense que s'il a attendu aussi longtemps, c'est qu'il pense même qu'un Neymar sur le terrain, ça pouvait être un désavantage, entre guillemets, enfin potentiellement, dans cet orga qui roulait plutôt bien. Bon, il n'y avait pas grand risque à 3-0. Moi, il y a un autre point. Moi, si je suis un adversaire du Brésil maintenant, je me situe dans chez l'adversaire. Je sais qu'éventuellement Neymar peut rentrer, que Neymar est fragile, que Neymar a peur même potentiellement pour ses chevilles. Je peux te dire, sans parler d'agression et de contrat, te dire que là, si tu lui mets quelqu'un
sur le
code, tu vas le chatouiller. Je pense que Neymar, la crainte que tu as vue, toi, sur les appuis, il l'aura aussi sur les contacts.
Et moi, je vais même te dire, moi, sur les rentrants, j'ai beaucoup plus. Je crois beaucoup plus en Hendrick sur la suite de la compétition qu'en Neymar. Oui. À l'instant, t'es
sûr. D'autant qu'il sait qu'il va jouer sur un côté.
Voilà, sur le côté, sur la mobilité, sur la fougue, la folie, par rapport à ce que peut apporter, ce que peut demander ce type de compétition. En tout cas, sur les deux rentrées, c'est ce que je me dis à l'instant. Et après, peut-être que à l'entraînement, Neymar va retrouver des minutes. Je ne sais pas ce qui peut se passer.
Hein, la Coupe du Monde, elle est pas si longue. Elle est longue. On dit qu'elle est longue, mais elle est plus si longue que ça. Donc ça veut dire que là, par miracle,
en huitième et en quart, peut-être qu'il aura plus de possibilités.
Il y a un truc sur l'âge qui est intéressant, puisqu'on parle beaucoup des cadras, les Dzeko, les Messi, etc.
Modric,
toi, qui est fatigué. Je pense quand même qu'à un moment donné, tu parles d'Hendrick, c'est intéressant. Je pense qu'aussi souvent dans les Coupes du Monde, tu sais, on a eu ces jeunes joueurs qui font des fois une arrivée, un truc, un exploit. Hein. Tu vois, on a vu le petit, c'était sympa, le petit Yacine qui met un but. Bon, ben, tu vois, je veux dire par là que c'est plus ces joueurs-là qui, sur leur peps, sur leur énergie, et dans une Coupe du Monde où il fait chaud, où t'enchaînes les matchs, où t'as besoin de genre, c'est plus ces gars-là et Hendrick qui vont faire des diffs que des darons de 35-40 ans qui vont un peu plus forcément tirer la langue, qui plus est s'ils reviennent de blessure.
Bon, voilà les gars pour ce que vous pouvez dire. On a réussi quand même à faire 15 minutes sur Neymar qui a joué 20 minutes. Ça, c'est
pas du jeune buteur irlandais qui, à l'époque, je pense, c'était le plus jeune buteur en Coupe du Monde 82. Non, petit, je regardais la Coupe du Monde 82 contre la France. Il s'appelait Norman Whiteside. Il avait 17 ans.
Whiteside.
Sur le côté blanc, quoi.
Ouais.
The white. Enfin, the right side.
Ouais, d'accord. Oui, tout à fait.
Right ou white?
Non, white, t'as raison. White, côté blanc. White side. Okay, okay. Je crois qu'il avait 17 ans et demi. À l'époque, ça a été battu depuis.
C'est très bizarre. Il y a un mec là qui fait des jongles. On est dans un open space là. On est au studio là. Il y a un mec qui fait des jongles.
Il me dit quelque chose en plus.
Il se débrouille pas trop mal, je crois.
C'est un freestyler, non?
Je sais pas. Il a une casquette. Il a une casquette à l'endroit, lui.
Casquette à l'endroit.
Ouais. Sean Garnier sera avec nous. D'ici quelques minutes, Sean Garnier sera avec nous, double champion du monde de football freestyle. Il sera là. Évidemment, vous pourrez trouver les meilleurs jongles partagés de Flo et Walid avec Sean Garnier. Vous pourrez noter. On a vu les séquences Ibra, Thierry Henry.
Ouais. Joga Bonito.
Joga Bonito. Je suis pas sûr qu'on soit sur le même niveau. Il faudrait qu'on essaie de faire ça.
Henry? Non.
Flo Walid. Qui serait Thierry Henry? Qui serait Ibrahimovic?
Ouais.
Dans le rapport au ballon.
Ouais, non. Moi, je ferais ni Zlatan, ni Henry. Au passage, Zlatan, beaucoup plus technique que Thierry Henry sur les vidéos.
C'est une technique différente, peut-être.
Non, plus technique.
Mais le ballon colle un peu plus à son pied, à son genou, à son épaule. Ouais, ça, c'est sûr.
Je trouve que Zlatan Ibrahimovic, moi, ça me...
En fait, il y a eu trois vidéos. Une première, on se dit, les deux bien. Une deuxième, où là, tu vois Ibra, ok.
Ouais.
Et très au-dessus. T'as senti que Thierry Henry a dit, on va quand même faire une troisième.
Ouais, ouais.
Parce que j'ai encore quelques skills à montrer.
Où j'ai l'impression.
Pour essayer de réduire un peu l'écart. Parce que j'ai pris une comparaison,
Ouais. Et puis, difficile. Je pense qu'il a eu les réseaux un peu,
Négatif.
Oui, merci.
Attendez, je vais trouver un peu, quoi. Ah,
c'est ce que je viens de dire, en fait. Mais pour moi, mais on peut le redire. Je peux le redire, peut-être, Flo.
Je peux le redire, ouais. La troisième fois, comme il était un peu vexé de la deuxième vidéo.
C'est mieux dit.
Moi, je pense qu'il avait un peu les réseaux dans la tronche, moi.
Il a pris un shitstorm.
Ouais, il a pris un shitstorm.
Mais en tout cas, là où t'as raison, c'est que je me suis
fasciné par Zlatan Ibrahimovic, quand même, la taille du mec. Et
moi, c'est. Ouais, je me souviens de ses contrôles aériens, mais là, effectivement, il y avait le reste. Et sur Henry, t'as raison, parce que je pense qu'il est technique, mais il avait une technique aussi en mouvement, aussi tellement supérieure par rapport à ses adversaires dans la course que Zlatan, lui, t'as raison, sur la technique pure, sans bouger face à un adversaire, je pense qu'il est supérieur.
Après, il faisait beaucoup de pubs Nike, je m'en rappelle, avec des chewing-gums, avec des ballons de tennis, etc., en jonglant.
Des ballons de tennis.
Des balles de tennis, pardon, en jonglant. Et déjà, à cette époque-là, on voyait la qualité technique du mec.
Après, Thierry Henry n'a pas été reconnu dans sa carrière pour être un très fin technicien non plus. C'est pas ce qu'on attendait de lui. Bah voilà.
Après la technique, c'est vaste.
Vitesse et finition. Hein.
Voilà.
Gilles Simon dira, vous parlez de technique, de talent, c'est ridicule.
Par exemple,
on m'a dit que j'étais un joueur un peu besogneux, laborieux, c'est pas vrai. Moi, je savais mettre la balle à 3 cm de la ligne dans le corner. Voilà. C'est ça. La technique, c'est pas de déposer une volée rétro. C'est pas que Walid qui fait des poses au paddle, des petites volées comme ça.
C'est aussi
bien relever la balle.
C'est mon modèle.
C'est aussi, voilà, c'est.
Au passage au paddle, t'en as pris une bonne ce matin, quand.
Il a crevé son partenaire.
Si il pense
Ibrahimovic, je vois là une volonté d'humilier Nicolas, moi en l'occurrence,
pas du tout.
En plus artificielle et fausse.
Oui, de raconter la vérité.
Voilà.
Raconter notre jeu.
Et puis on aura Sean Garnier, ce qu'il a pensé. Zlatan.
Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote du paddle aujourd'hui?
Non, pas maintenant, il est encore tôt. Il est que 2h.
Grosse anecdote paddle aujourd'hui que j'ai envie de raconter.
Teasing.
Extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire.
Alors, ils vont pas être déçus. C'est vraiment. Il s'est passé un truc jamais vu, en fait.
Vraiment, vraiment.
Dans l'histoire de l'humanité, c'est extraordinaire.
Dans l'histoire du
padel ? Non, très belle anecdote.
Les amis, on approche de la fin, de la demi-heure de jeu, en tout cas, dans cette double rencontre. Allons d'abord voir Afrique du Sud, Corée du Sud. Jean-Louis Tour.
0-0 toujours, 29 minutes dans cette rencontre. Il y a eu un tir cadré pour l'Afrique du Sud, la tentative d'Apolis, frappe cadrée captée par Kim, le gardien sud-coréen.
L'autre match de ce groupe A, République Tchèque, Mexique, Valentin Jamin.
La demi-heure de jeu également et le même score, 0-0, aucune frappe pour le Mexique et 5 tirs tentés par la Tchéquie. On rappelle que la République Tchèque doit s'imposer pour espérer se qualifier. Wisinski, encore lui, pour son premier match dans cette Coupe du Monde, a tenté sa chance de loin tout à l'heure, c'est passé à côté, il était encore à la manœuvre dans la surface en essayant de faire des dribbles sur le côté gauche tout à l'heure, donc il est assez actif alors que les Mexicains sont bien discrets pour le moment à domicile. Et encore une mauvaise relance, la plein axe bien récupérée justement par Koufal notamment, et les Tchèques qui s'installent dans le camp mexicain. 0-0
Énorme occasion pour l'Afrique du Sud. Énorme occasion. J'attendais de voir le ralenti pour en être sûr. Mais il n'y avait pas de position de hors-jeu. Première frappe à l'entrée de la surface de réparation de Sitolé. Repoussé par Kim, mais repoussé dans les 6 mètres, dans les pieds de Maggopa, qui n'arrive pas à ajuster Kim. Et il bute sur lui. Il rate complètement sa reprise. Il était vraiment tout seul dans les 6 mètres. Énorme occasion pour l'Afrique du Sud, mais toujours 0-0.
Je suis pas sûr qu'il n'était pas hors-jeu.
Je crois qu'il est aligné. Hein. Je crois qu'il est aligné avec le dernier défenseur.
Je suis pas sûr, pas certain. Ouais. Mais bon.
Je sais pas si tu l'as dit, Jean-Louis ou Nico, mais l'Afrique du Sud peut encore se qualifier. Hein.
Bien sûr.
J'ai commencé par ça, effectivement.
En fait, si t'écoutais parfois ce que disaient tes camarades, tes amis même, on peut parler d'amitié.
Non, mais c'est bien de le répéter, l'Afrique.
Ah oui, en gros, je peux le répéter.
Peut se qualifier avec cette victoire, avec ce match nul arraché.
Et là, depuis le début du match, ils sont pas ridicules.
Ah oui, ils sont bien meilleurs. Autant les deux premiers matchs, je les ai trouvés très, très en dessous. Même le deuxième, ils arrachent le nul sur la fin de match. Mais là, par rapport à la Corée. Sincèrement, ils méritent d'ouvrir le score. Hein,
la Corée du Sud, la Tchéquie, l'Afrique du Sud peuvent se qualifier. Voilà, ouais. Sachez-le. Et ballotage favorable pour les Sud-Coréens. Pour l'instant, Mexique, première, 7 points.
Sachez-le, vu que tu l'as dit.
Corée du Sud, 4 points. Voilà. Essayons d'avoir un rapport bienveillant. D'accord ?
D'accord. Je vous sens chien et chat.
Pas du tout, c'est comme ça, c'est un amour passionnel. Voilà. Et un amour toxique.
C'est l'amour vache.
Ouais, l'amour brebis.
C'est mythe, fascination, répulsion.
Exactement.
Brian Brobie.
Mais ça vient plutôt de ta part que de la mienne.
Ah ben non.
Ah si, c'est toi qui aime.
Moi, ça fait 5 ans que je pousse ta carrière ici. Je suis là pour te faire briller.
Qui aime bien, bien.
Exactement.
Voilà. Ouais. C'est vrai ça. Ouais. Flo. Exactement. C'est vrai, ça marche vraiment ce proverbe ou pas, tu crois ?
Et suis-moi, je te fuis.
Il y a des gens qu'on a châtié et qu'on n'aimait pas vraiment aussi, tu vois, quand même.
Ouais. Et qui vole un œuf, vole un bœuf.
Oui, tout à fait.
T'en vas à la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse.
Ok, allez, il est temps de faire une pause. Le 0-0 donc entre République tchèque et Mexique. Entre l'Afrique du Sud et la Corée du Sud.
L'Afrique du Sud pouvait se qualifier, on l'a dit ça, Nico ?
Oui, on l'a dit.
En cas de victoire.
Et Yacine Bamou, vendeur à la boutique.
On a dit que.
D'ailleurs, Younes El Hanawi était là. Il y a deux jours.
C'est qui Younes El Hanawi ?
On a dit que Younes El Hanawi était le fils.
C'est le fils de Neil.
Le père, pardon.
Ça, on l'a pas dit, le fils de Neil.
De Nayanaoui, voilà. Allez, pause. Il est 3h33 du matin. Combien êtes-vous sur YouTube ? Vous êtes 2535.
C'est énorme.
C'est énorme pour nous, vous savez. Ouais. Ça veut dire beaucoup. On revient dans un instant. On écoute les nuits de l'after. L'after live intégral Coupe du Monde. Walid Acharchour, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour, Valentin Jamin pour les matchs. On revient dans un instant. Vous écoutez RMC et vous regardez l'émission sur After Foot TV et sur la chaîne YouTube de l'after. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'intégrale Coupe du Monde, l'After Live avec Walid Acharchour, avec Florent Gautreau. On est en direct au New York, vous le savez, il est 21h34 ici. Il est 3h34-35 du matin désormais en France. Merci d'être aussi nombreux partout. Pas mal de messages, des hommes Tom, hein, vous êtes alignés sur notre fuseau horaire. Merci de nous écouter également. Bien sûr, les Antilles sont
là. C'est eux les 3000 sur
notamment.
Hein, salut les Antilles.
C'est eux les 3000.
Ouais, ils en font partie.
On salue les Antilles et les méchants.
Ouh. Oh ouais, qui a fait ça ? Qui était aussi réactif ? Samy à Paris ? Ça, c'est fort.
Il est bon,
mais la connexion, 6000 km sur une blague foireuse, mais que j'ai quand même aimé. Qui m'a arraché un sourire.
Ah, t'es bien.
Elle m'a surpris. T'as pas inventé non plus.
Elle m'a surpris, j'aurais dit Vinicius sur un pressing.
Tu l'as pas inventé, on est d'accord.
Pourquoi j'ai pas inventé ? Je viens de l'inventer il y a deux secondes.
Vraiment ?
Mais bien sûr. Mais c'est de la fulgurance. Mais tu comprends pas que je peux avoir des fulgurances, Nico ? Tu crois pas en moi ? Si c'est Flo qui l'a fait, tu me dis c'est génial.
Je prends un foot, pas sur l'humour et l'esprit.
Mais au contact.
Pas sur le stand-up.
Oui, mais à votre contact, je progresse. C'est ça que je remercie.
Vous cette nouvelle humilité.
Je remercie RMC, Génération After, l'After Foot,
la
nouvelle voix de l'After. Toutes ces années à votre contact me permet de m'enrichir et de sentir le timing.
Voilà, important, le timing de la.
Exactement.
Pour la bonne blague qui claque.
Mais bien évidemment.
S'engouffrer dans un silence.
S'engouffrer. Mais moi, ça c'est grâce à Flo, c'est grâce à toi, Nico.
C'est le principe du.
Dans la vraie vie, t'es tellement marrant dans la vraie vie.
On peut révéler un peu qui est. Tu vois, c'est vraiment un enfoiré. Là, il se joue la bienveillance. Le mec, en 7 ans, 6 ans, il m'a jamais parlé comme ça.
Qui est le plus drôle en soirée, d'ailleurs ?
Non, qui est plus drôle tout court dans la vie. D'ailleurs, je demande à Jean-Louis et à Valentin de jouer également.
Ouais.
Parce qu'il est temps d'être transparent. Profitons d'avoir l'antenne à 3h36 du matin.
De jouer à quoi ? De jouer à quoi ?
Qui est le plus drôle dans la bande, là, RMC, tout ça ? Jean-Louis, tiens.
En général ou chez vous ?
Bah, chez nous, c'est la famille, Valentin.
Oui, mais je veux dire, on n'est pas au quotidien à New York, ça se trouve, il y a des immenses blagues qui fusent.
En général. Parlons de l'after.
Qui va de
Daniel Riolo, bien sûr, à Flo Gautreau, où elle est déjà chez Kevin Diaz, Jean-Louis Tour, Jimmy Brown, David Glusman,
Max Chano.
Pas j'en oublie, Mihamadelevich. Vas-y.
Alors,
T'as dit quoi?
Non, mais alors, effectivement, David Glusman, je pense que je le mettrais pas dans le classement, a priori. Parce que j'ai pas perçu son humour, là, tout de suite.
Non, mais il a d'autres qualités, hein.
C'est ouais, toi qui le mets dans le truc. Donc, tu le jettes sous les roues.
Mais moi, je n'oubliais personne. Tu sais, c'est comme quand.
Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. N'oublions personne.
Bon, alors, vas-y, Jean-Louis, tu commences. Ce qui te fait le plus marrer.
Walid. Ça,
c'est Walid. Walid. Oh, hein. D'accord.
Ah, faut que je développe aussi. Et tout, faut que je fasse un avis tranché.
Ah oui.
Non, ça suffit. Ça suffit, Jean-Louis.
Qualité
de okay, merci.
Après, faut savoir, je pense que je suis marrant malgré moi, en fait.
Ah, ça, c'est très intéressant. Oui, parce qu'il y a deux colonnes dans l'humour.
Exactement.
Il y a le malgré soi.
Ouais, exactement.
Et le.
Je pense que je fais pas exprès. Je pense que c'est plus.
Et le maîtrisé.
C'est plus mes anecdotes de vie. Tiens, tu veux une anecdote aujourd'hui sur le paddle ou pas?
On peut la raconter.
Non,
on est encore là pendant 1h25.
Jean-Louis, branche-toi sur celle-là. Elle est extraordinaire.
Mais Jean-Louis, il est là. Hein, c'est pour
oui,
le match. Hein.
Enfin, oui, d'accord.
Bah, j'écoute.
Voilà.
D'ailleurs, attends, on va quand même faire les choses bien.
Ouais.
Il y a le dénouement du groupe A.
Oui.
Le temps, le score, Valentin Jamin, République Tchèque, Mexique.
38 minutes de jeu. On rappelle que si la Tchéquie s'impose, la Tchéquie peut encore se qualifier d'ailleurs. 38 minutes de jeu, 0-0.
Mais retour... aussi, non
oui, je crois même que la Corée est en pole position, mais pas sûr. Et on a eu la première frappe de Reyes, le milieu de terrain, qui a tenté un retour acrobatique pour le Mexique après un corner. Il se passe pas grand-chose sinon côté mexicain. Le Mexique assuré de finir premier. 0-0, 38 minutes de jeu.
Et Jean-Louis Tour pour Afrique du Sud, Corée du Sud.
0-0, 38 minutes. T'as dit le temps, le score.
Sobriété, qualité, efficacité, plat du pied.
J'ai rien d'autre à dire, de toute façon, il s'est rien passé.
Ah, on pourrait faire aussi un débat, quels sont les plus gros mangeurs de micro RMC? Parce que là, Jean-Louis a été efficace.
Ouais.
Ça peut être un débat vexant, je pense.
Je pense que j'ai.
Certains peuvent mal le prendre. Hein? Alors, dans l'after, déjà.
Ah bah.
Qui mange le plus? Tu sais, quand je dis mange le micro, c'est celui qui a fini, mais qui, pour exister, dans un élan un peu d'ego trip, va rajouter des phrases qui n'apportent rien à son raisonnement.
Parce qu'on a Nico Jamin.
Oh, la description.
Du côté des animateurs, je pense que c'est Nico Jamin, mais sans
d'ailleurs,
débat,
on a eu un débat possible.
Sans débat possible, bien
sûr
évidemment.
Oui. J'ibère un peu le Michel Denisot de l'after, tu vois.
C'est-à-dire.
Évaluation. Le boulet.
Oui. Et toi, c'est évaluation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Vinicius, qui a été extraordinaire pendant toute la deuxième mi-temps?
Parce que moi, je pense que voilà.
Je l'ai vu très très bon. Et Walid, dis-moi alors ton analyse. Bah, tu viens de la faire.
Non,
c'est un honneur.
Ça, c'est pas Walid.
C'est un honneur.
Non. Quoi? Ça, c'est Walid qui se caricature en mec hyper concis.
Moi, je bouffe le micro, c'est connu. C'est connu. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en off, Flo Gautreau me fait passer pour un mangeur de micro, comme si lui ne le mangeait pas. Ça, je trouve ça extraordinaire.
Moi, je pense que
Flo, à chaque fois. Attends, je vais révéler.
Flo, il pense.
Que t'en parles, que je t'envoie une petite flèche là. Hors antenne.
Ouais.
Il y a Flo derrière, dans le coin de la pièce.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est sûr que Walid.
Ouais, il bouffe.
Hein. Il bouffe. Hein.
Ouais, il bouffe. J'ai l'impression, en fait, c'est comme dans.
Alors,
tu sais, j'ai des potes à moi, menteurs, qui me disaient, t'es un menteur.
La preuve, regarde.
Alors, c'est des gros mythos.
Alors, c'est des gros mythos. Ou le crevard qui dit, attends, franchement, t'aurais pu payer. Alors que le mec, c'est un crevard.
Alors.
Et ben, Flo, c'est la même chose.
Jean-Louis, alors, tu tranches, qui est le plus gros mangeur de micro entre Walid et Flo Gautreau?
Alors, dans ces cas-là, je vais choisir le. Non, mais même tout confondu, je vais prendre le moins susceptible, je vais dire Walid, et comme ça, il n'y a pas de problème.
Non, mais pour le coup, je pense que je bouffe un peu plus le micro. Mais Flo Gautreau, c'est un voleur de paroles entre les auditeurs. Tu sais, quand il y a les auditeurs ou quand il y a 3 points à l'Olympiakos, etc., alors que tu viens juste de faire une minute. Au passage, je voulais juste revenir sur un truc et il te fait 2 minutes 30. C'est la spécialité de Flo Gautreau. Ça, c'est. Il te vole le ballon.
Et donc, on met pas Daniel dans la discussion, là, c'est ça?
Non,
c'est,
tout le monde a peur de Daniel, j'ai l'impression.
Tout le monde a peur, là.
Ça va, c'est pas Neymar, on va en parler quand
Daniel,
même.
C'est le numéro 1. Bah, si, c'est Uno, c'est Uno.
C'est Neymar, quand même.
Ouais, c'est Uno.
Donc, depuis le début, là, depuis 5 minutes.
Mais toi, t'es marrant, toi, tu fais exprès. T'es un gros malade, tu fais exprès avec ton chrono.
4 minutes 10 pour Walid Acharchour, 3 minutes 20 pour Nicolas Jamin, 27 secondes pour Jean-Louis Tour et 10 secondes pour moi.
Et 0 secondes pour Valentin Jamin.
Je vais te dire, moi, je suis un bavard, tout le monde le sait. Mais Walid m'a surpassé. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça. Et moi, je vais te dire un truc. Attends, je vais te dire un truc. Je travaille quand même avec le plus gros bouffeur de micro, qui est Daniel.
Oui.
Bah quand même, c'est
il n'est pas dépassé quand même.
Par qui?
Quand tu mets Walid face à Daniel, il se fait manger.
Même Walid,
le temps de parole.
Moi, j'ai toujours dit à tous les gens qui me disent Daniel, c'est pas simple et tout, je te dis, il y a 80-20 en temps de parole.
Oui.
Mais dans les 20% que t'as, Il faut être bon. C'est comme quand Hendrick qui rentre sur le terrain, là. C'est vrai. Là qu'il faut aller marquer.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est là qu'il faut prendre dans les intervalles. Mais voilà, après, c'est comme ça. Toi, il faut savoir s'imposer avec le temps.
Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez propre à l'after aussi, je trouve. Et ça arrive. Et je crois que Daniel et Walid ont ce point commun là. Parfois, tu sais, ils s'appuient sur l'autre. Ils posent une question, ils finissent un raisonnement. Il pose une question à l'autre.
Il te montre dessus.
Si je te dis ça, Daniel, qu'est-ce que t'en penses? Ou Daniel, si ça, Walid, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense qu'en fait, effectivement, si tu le. Non, mais attends, moi, je te dis une chose tout de suite. Ouais. Il te monte dessus.
Je te monte dessus.
Alors qu'il t'a posé la question, qu'il demande une réponse, non, mais derrière, il te monte dessus.
Moi, par contre, ma spécialité, c'est que je fais un avis tranché 3 minutes 50. Et en fait, le mec, vu que j'ai oublié un argument, le mec repart et je fais, mais non, mais en fait! Et là, je repars. Et c'est vrai que je lui remonte dessus. Ça, c'est un gros problème.
Après, Flo est fort. Et là, il y a Anthony qui nous dit sur le chat. C'est le roi du. Attends, je te coupe deux secondes.
Ouais, je te coupe deux secondes.
Tu vois?
Non, mais.
Désolé, je te coupe deux secondes.
La spécialité, c'est quand il y a Chambéry PSG.
Attends, il est en train de se vexer. Il a raison, Jean-Louis.
En fait, là où il est très, très fort, c'est juste après les auditeurs ou juste après un but en Ligue 2 le lundi soir, etc. Il te récupère la parole. Il sait très bien comment le faire.
C'est vrai. Et même maintenant, je fais un truc. Je vais te donner une technique. Je vais te donner un tips, Walid.
Vas-y.
En fait, là, tout à l'heure, t'as parlé. Et puis, à un moment donné, je dis, attends, je te coupe et je vais te laisser finir dans quelques instants, t'as tout à fait raison là-dessus. Après, j'étais mort, j'ai pris le micro, c'est fini.
Alors qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire.
Hein. D'accord, bienveillance, tu prends la parole. Alors, ça s'appelle blocage, réorientation.
C'est intéressant. Alors, on peut aller plus loin aussi.
Parce que faut savoir que Flo Gautreau donne des cours de Mediadé à.
Mediadé ?
Enfin, de Mediadé.
C'est le Mediadé ?
Non, il donne des cours de média à certains. Non, tu fais des conférences.
Media training. Ça se dit pas, je crois.
Non ? Tu fais pas de.
Si, bien sûr.
Non, mais t'es
j'ai pignon sur rue quand même.
Bon. Voilà les amis.
Enfin, j'ai pignon sur un passe parfois. Mais.
C'était voilà. Après, quel est celui qui se s'autocite le plus?
Là c'est Flo.
Ah non mais là c'est fou. Attends Daniel, je sais pas.
Bah si, faire référence à un avis passé.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, c'est ça, c'est la référence.
Comme je l'ai dit,
très fort. Je vous l'avais dit.
Ouais, c'est
ça, je vous l'avais dit.
Ah oui, c'est ça.
Ça c'est fort.
Non mais moi j'avais dit que
je l'ai tweeté il y a deux semaines.
J'avais dit que Désiré Doué, j'avais dit que Guéla Doué, ça c'est Flo ça.
J'avais dit que Nolan Roux sera en équipe de France.
Besoin de dire qu'il avait eu raison avant tout le monde.
C'est ça encore. Tort. Ah je le dis hein.
Tort un peu moins.
Le tort.
Un peu moins quand même.
Allez bâtard.
Le tort Wunderbartor. Beaucoup moins quand même.
Oui.
Oh, je fais un monde honorable.
Non, c'est Daniel qui dit souvent quand il a tort. Daniel, ça, il le fait souvent.
Toi, t'es le roi du mea culpa.
Oui.
Ouais. C'est vrai.
Oui, parce que moi, j'humanise mon propos.
C'est totalement démagogique, en fait.
Non, pas du tout.
Tu sais que les gens vont dire à chaque fois sur les réseaux.
Ah, bravo.
On aime Walid parce qu'au moins, il reconnaît quand il a tort.
Tu penses que je fais ça pour
c'est
les
une
gens
horreur. Une horreur démagogique.
Tu penses que je fais ça pour les gens?
T'es prisonnier des réseaux.
Tu fais ça pour qui? Après, t'appelles Najib, Jimmy, les prods. Faut me découper ça, mon mea culpa.
Pas du tout.
Ça peut prendre.
J'ai jamais fait ça.
Et demain à 9h, il m'envoie un WhatsApp. Ça a pété, les gars.
J'ai jamais fait ça.
Pas, il a pété.
Jamais demandé.
En fait, vous êtes tous des faux personnages.
Non, mais ça, c'est.
Ce qu'il y a, Valentin, donne la parole à Benjamin pour cette.
Vous êtes tous des faux personnages, en fait, c'est ça? Vous inventez un personnage à l'antenne?
Non.
Pas du tout.
Pour le coup, tout le monde ressemble à ce qu'il est dans la vie.
Ouais, je pense.
Ça, c'est vrai?
Ouais.
Puisqu'on peut pas en placer.
Daniel est plus sympa dans la vie qu'à l'antenne, quand même. On peut le dire. Daniel est plus sympa dans la vie qu'à l'antenne. À l'antenne, il est beaucoup plus. Hargneux, quoi.
Oui, il est hargneux.
Dans la vie, il est
trop. Dans la vie, il lui arrive d'être hargneux, mais il est plus sympa, ouais. Non mais si c'est vrai, il est plus sympa dans la vie.
Ouais.
Attends, et je découvre la photo de Valentin Jamin sur la chaîne.
Oh non, elle est terrible.
Sur Afterfoot TV.
Si on dirait qu'il est terrible.
Vous savez quoi? Alors je vais vous donner les quiz.
Utilisé.
Cette photo, je suis translucide en plus sur cette photo et elle date de 2019. Et j'ai fait un shooting photo d'ailleurs il y a deux mois en disant c'est plus possible. Et quand en 2019 on m'avait pris commentaire Twitter, haha MDR, on dirait Haroun.
Voilà. Ah non, il y a 7 ans. Sosie officiel d'Haroun.
Et ça n'a pas bougé. Mais je suis mieux maintenant,
Olivier. En fait, Valentin. Ouais. Là, tu présentes la famille en plus, donc voilà.
Haroun Sougastro, quand même. Hein. C'est pas Haroun.
Mais oui, c'est ça qui est terrifiant.
C'est pas Haroun en forme, quoi.
C'est les produits que les marins, ils emmènent lyophilisés, tu sais, c'est en plastique.
On comprend pas ce que tu dis, quoi.
Mais parce que t'as pas. Voilà, Valentin, on a une culture partagée, il comprend ce que je
dis. Ah, une culture partagée.
Si tu connais pas le terme de lyophilisé, j'y parie.
C'est quoi lyophilisé? Est-ce que tu peux nous le dire?
Mais je te l'ai expliqué il y a 20 secondes à peu près. Tu sais, les marins, quand ils partent pendant sur un tour du monde,
okay.
Ou en rando, ils compressent aussi, tu compresses la bouffe dans le plastique.
D'accord,
voilà. Okay. C'est une compression.
Il n'y a pas d'air dans le plastique. Voilà. Ça permet de conserver les aliments.
C'est ça, tu vois, essaye de faire grandir.
Bah, merci.
Il paraît hier, quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp pendant l'émission, m'a dit c'est une folie, Walid. Il pensait que Apple n'avait pas pensé à faire des prises aux États-Unis identiques à celles.
Un grand moment d'hier.
Ça m'a échappé, mais j'ai été alerté plusieurs fois quand même dans la soirée.
Pour moi, tous les pays avaient les mêmes prises.
Très bonne digression
voilà.
D'hier, bon. Effectivement.
Je peux raconter mon anecdote du padel?
Valentin, en revanche, oui. Pour finir sur la photo, Valentin, maintenant, est dans une coupe plus moderne. Hein. Il a rasé sur le côté un petit peu, tu sais. Il a fait une longueur derrière, quoi.
Ok.
Voilà, c'est
bon,
ça.
Un petit dégradé espagnol, modestement.
Un petit dégradé espagnol, voilà.
Ouais. Haircut. On a un peu Jean-Louis pas mal aussi, on va rassurer.
Jean-Louis, il avait tenté il y a 6-8 mois, ça aussi.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Non, mais Jean-Louis, il était parti sur Vincent Labrune. T'en es où ton road trip pour la coiffure de Labrune?
Le road trip s'est arrêté. J'ai coupé. J'ai coupé. C'était une bien belle aventure.
Une aventure capillaire.
Voilà.
Ok.
Alors, les amis, où en est-on? On est dans le temps additionnel. République tchèque, Mexique, Valentin Jamin.
Oui, on est dans la deuxième des 4 minutes de temps additionnel. Toujours pas de but, toujours 0-0. Mais les Mexicains là qui ont eu deux grosses occasions par Alvarado, le joueur de Chivas au Mexique, à droite de la surface. Une fois, il a frappé sur le gardien. Et ensuite, il a été décalé sur la droite encore une fois. Il a mis un joli drop. Dommage parce qu'il avait un angle pour envelopper le ballon. D'ailleurs, niveau coupe de cheveux, là, c'est un mulet un petit peu excessif pour Alvarado.
Il est vraiment poussé.
C'est poussif.
Il est même raté. Je pense qu'on peut.
Ouais, on peut le dire, on peut le dire, il est éclaté.
0 à 0.
À quoi ça te fait penser, Chivas, comme ça
Whisky.
C'est whisky, Chivas.
Non. L'interview de Eto'o sur Bein. Quand Eto'o, il dit on avait fait un match amical là contre Chivas. Tu ne travailles pas de Cincinnati?
Non. Voilà, le temps de score, enfin, plus que ça, Jean-Louis Tour.
Merci de bien le jouer.
Afrique du Sud, Corée du Sud.
0-0. Il reste 1 minute 40 dans le temps additionnel de cette première période. Et ce qui est sûr sur cette rencontre, c'est que l'Afrique du Sud a bien en tête que la qualif est possible avec une victoire. Clairement, comme tu l'as dit, Walid, il y a quelques minutes. Ils sont au courant.
Je les trouve même motivés. Parce que je me disais, pourquoi ils sont motivés comme ça? Et je me disais, ils peuvent se qualifier.
Écoute, moi, j'ai aperçu sur le banc un membre du staff d'Hugo Bros avec des écouteurs. Je pense qu'ils écoutent RMC et qu'ils ont une prise de conscience il y a 20 minutes qu'ils pouvaient se qualifier en cas de victoire.
Incroyable. Il y a un vrai changement.
Et il est vrai qu'Hugo Bros a peur de prendre un coup de balai. Hein.
Ouais. Alors ça, c'est... merci Samy à Paris. Hein,
très bon.
Pour la réactivité.
Très réactif.
Mais qui est ce Samy?
Tu sais que ce son,
appelons-le Samy, non?
Tom Sawyer.
Scooby-Doo.
Scooby-Doo-Bidou.
Non, mais c'est pas le maître de...
C'est là qu'il se dit... Là il s'est dit, dans son regard, il a semi-ouvert la bouche, il s'est dit... T'as les quadraquins qui ont
choqués. Les ringues.
Je partage.
Ah, tu regardes pas
la rêve de Daron.
Avec les darons.
Hier, nous a sorti sous le soleil au bled, là. Attends,
ça, c'est une charbonnier. Sous le soleil?
Ah non, c'est moi, sous le soleil.
Sous le soleil.
Avec Jessica.
D'accord.
Non, il regardait sous le soleil quand il allait au bled.
Scooby-Doo et sous le soleil, c'est pas la même époque.
C'est intergénérationnel.
Scooby-Doo, t'as jamais vu?
Non, Scooby-Doo, non. Moi, j'ai commencé à Dora.
Satanas.
Non, Franklin. Franklin qui savait pas.
Franklin la tortue.
Ouais, Franklin la tortue.
Ah, Franklin la tortue.
Il y avait Franklin, Olivier Tom.
C'est pourquoi il connaît Flo.
Il y avait
ses enfants regardés.
Il y avait Jeanne et Serge aussi.
Ah, non, j'en ai pas chez vieux.
C'est pas ta génération.
Midi les Zouzous. Mytho.
Ils ont fait des rediffs.
Mais bien sûr, non. Midi les Zouzous sur
France 5. Ils veulent récupérer les viewers de les darons, là.
Mais pas du tout.
Midi les Zouzous, Jeanne et Serge.
Eh ben, je vais même te dire un truc. J'étais beaucoup plus fan de Jeanne et Serge que d'Olivier Tom.
D'ailleurs, dans Jeanne et Serge, c'est marrant. C'est un peu comme Olivier Tom.
Ouais.
Tu vois surtout Jeanne.
Ouais,
et dans Olivier Tom, tu vois surtout Olive.
Exactement.
D'accord.
Moi, Jeanne et Serge, c'est mes.
Très belle analyse, ça.
C'est comme dans l'after, Wawa et Nico.
Jeanne et Serge, c'est mes voisins du 3ème. Donc voilà. Je veux juste vous dire ça.
C'est Jeanne et Serge.
Ouais.
Et donc tous les matins, tu leur fais la blague. Hey, salut Jeanne et Serge.
Ben voilà, exactement. Ils jouent au volet, non?
C'est la mi-temps.
C'est la mi-temps. Moi aussi, je voulais casser ce moment gênant. Parce que tous les deux, on s'est dit, il y a un moment gênant à casser, donc on y va. Mi-temps entre l'Afrique du Sud et la Corée, 0-0. Et donc pour l'instant, l'Afrique du Sud est éliminée, mais un but qualifierait l'Afrique du Sud.
Valentin?
Et c'est la même chose pour la Tchéquie, hein. Un but qualifierait peut-être la Tchéquie. 0-0 à la pause. Le Mexique, on le rappelle, est premier de groupe et a fait pas mal de changements.
Combien de tours du monde savez-vous faire avec un ballon?
Alors, ça dépend de quel avion je prends.
Sean Garnier, il atteint les 100. Voilà. Mais ça, je savais que t'allais le faire. Mais tu vois, si Flo l'avait fait, t'aurais dit qu'il était ringue.
Mais pas du tout.
On fait une pause ou pas, Jimmy Brown?
Ça dépend.
Allez, on fait une pause. Je crois qu'il est temps de retrouver nos esprits. Retrouvons nos esprits. Et on vient dans un instant pour débriefer, bien sûr, cette première période entre la Tchéquie et le Mexique.
En soute le ballon ou pas?
Et débriefer après du Sud, Corée du Sud. Comment?
En soute le ballon ou pas? Pour le tour du monde.
En soute?
D'accord.
Ça passe en soute.
Ok.
Très bien. En cabine, ça passe aussi.
Ouais.
Voilà. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Merci d'être avec nous. L'after live, intégrale Coupe du Monde. La nuit de l'after, 3h51 du matin. Encore très nombreux à nous regarder sur Afterfoot TV, la chaîne, et également sur YouTube, 2555 précisément. Merci d'être encore avec nous. On va parler football, on va parler équipe de France dans quelques minutes, bien sûr. La compo probable avec les présences, ça tombe bien, de Valentin Jamin et Jean-Louis Tour, hein, qui sont aux commentaires de Tchéquie Mexique.
Faut vraiment remercier les viewers.
0-0,
Nico,
sur les deux matchs.
Faut vraiment les remercier, ouais, les viewers, parce que ce qu'on vient de vivre là sur le dernier quart d'heure, je pense que c'est très très dur.
Et d'ailleurs, ça a monté ou ça a baissé?
Ouais,
ça monte.
Ouais, ça monte, bien sûr.
Ouais,
ça monte.
C'est une anomalie statistique, comme dirait Paulo Breitner. Okay. C'est comme le Bayern PSG, c'est-à-dire que voir des gens monter après ce qu'on vient de produire, c'est quand même très très fort. En tout cas, on est très très bien payé, je trouve.
Bien payé.
Ouais.
Alors, nous sommes ensemble avec Valentin, Jean-Louis, Walid et Flo Gautreau, et nous accueillons un homme qui vient de nous rejoindre, qui a une notoriété dans le football pour avoir été deux fois champion du monde de freestyle. Le premier champion du monde en plus. Sean Garnier est avec nous. Salut Sean.
Bonsoir à vous.
Merci, Sean, très heureux de t'accueillir.
Salut Sean. Très content d'être ici. Sachez que je vous écoute. Je ne suis pas un ancien.
Non. Ouais. Attends, mais non. Les gens qui commencent des phrases comme ça, je n'y crois pas.
Non, je te jure.
C'est vrai.
J'ai une vidéo avec mes enfants quand je leur ai dit que je venais, je les ai déposés là en bas. Je leur ai dit, je vais au studio RMC pour l'afterfoot. Ils m'ont dit, on veut venir.
Ah ouais,
ils ont 7 ans, 9
mais
ans.
Mais non, ils sont où, fallait venir?
Franchement, s'ils viennent là, il n'y aura pas de micro.
Ah ouais?
Je vous le dis direct.
D'accord. Mais attends, ils sont partis?
Oui, on est à 20 minutes d'ici.
Ah, c'est dommage.
On passera pour faire coucou.
Et Nitilico fait exprès parce qu'il a dit pas d'enfants, on monte pas d'enfants. Et là, il fait, ils sont déjà partis.
No kids.
No kids. Ils sont déjà partis.
No kids.
Ouais.
Voilà.
Ouais, lui, il va dans les piscines sans enfants et tout. Enfin, il veut pas être dérangé.
Merci beaucoup, en tout cas. Et on est très, très content que tu sois là aussi.
Merci, c'est gentil.
On est très heureux de t'accueillir. On s'est déjà venu dans l'after, je crois.
Je suis déjà venu plusieurs fois.
Quelques fois, je me rappelle.
Trois fois, ouais.
On t'a toujours posé un peu les mêmes questions, hein, sur les joueurs, les plus techniques ou pas. On pourra les reposer aussi. Hein,
bien
quand
sûr,
même.
Avec plaisir.
Bon, Sean, qu'est-ce que tu fais aux States, là, aux États-Unis? Aux States. Ça fait à peu près 30 ans qu'on dit plus ça, on est d'accord?
Non, on peut le dire, c'est Nico.
Aux États-Unis.
Assume-toi, Nico.
Sean.
Alors, je suis venu déjà enjoy la Coupe du Monde, faire le tour des matchs, voir l'atmosphère, faire partager à ma famille et mes enfants justement l'atmosphère autour des matchs, montrer un peu l'ambiance, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'entre les matchs, j'essaye de créer des tournois de street football, de 1 contre 1 ou de 3 contre 3, et de détecter les talents et de leur donner des opportunités. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à San Diego, Los Angeles, je vais aller à Miami et je fais à New York. Et à chaque fois que je repère des talents, je les fais venir pour une phase finale qui aura lieu le 5 juillet ici à New York. Et le but, c'est de leur créer de la notoriété. Donc quand je vais sur un match, par exemple, je crée du contenu, j'arrive à attirer pas mal de fans qui regardent les matchs, l'équipe de France, le Brésil ou quoi, l'Algérie. Et ensuite de ça, bah, j'utilise cette audience et je les redirige vers ce que moi je fais en disant attention, regarde là où on est dans cette ville. D'accord. Ils jouent au foot de cette façon. Ici, la spécialité, c'est 4 contre 4, par exemple. Voilà, il y a telle et telle personne qui sont super forts. Allez les suivre. Donc c'est un peu comme ça que je redirige un peu les gens, et c'est un peu ce que j'ai fait sur les 2-3 dernières années. Le but pour moi, c'est de donner la lumière aux autres.
D'accord, ça y est. Tu parles de joueurs américains aussi?
Ouais, américain.
J'en croise beaucoup.
J'en croise, ouais.
Ils sont forts. Ils ont un truc, un rapport au ballon propre à eux ou pas, ou ça.
Il y a une culture footballistique qui est vraiment un peu, 5 contre 5, on va dire. D'accord. C'est beaucoup les Latinos.
Oui, voilà.
Qui joue. Là, j'étais vraiment à Los Angeles, San Diego. C'était beaucoup les Latinos. Ça joue pas mal. Après, il y a quand même une différence quand même avec l'Europe dans la globalité, mais dans le style.
Il y a pas la même densité non plus de joueurs, quoi.
Ouais, c'est plutôt éparpillé un peu. D'accord. Partout. Après, dans les styles, ils ont quand même leur style. Hein. Ils ont quand même leur propre style, leur façon de toucher le ballon. En fait, si tu veux, c'est un peu comme les sports de combat. C'est difficile à décrire, mais quand tu regardes les joueurs toucher le ballon, je peux dire ouais, voilà, lui, il vient de là, il a cette école. Par exemple, au Brésil, il y a un geste qui s'appelle le Pulinho. Si un mec qui fait le Pulinho, je vais savoir que c'est un Brésilien ou qu'il a une culture futsal qui vient du Brésil.
C'est quoi le Pulinho?
Pulinho, c'est un geste où tu sautes. C'est compliqué à expliquer, ouais, mais quand tu fais rouler le ballon, tu sautes, tu stoppes le ballon, ça casse le rythme et après tu pars de l'autre côté.
D'accord.
Il y a Ricardinho, le joueur de futsal, il le faisait beaucoup.
D'accord.
C'est marrant parce que tu vois, on a rencontré un entraîneur, Emmanuel, pour pas le citer, qui habite près de notre hôtel et qui est coach dans une académie de foot, et qui disait qu'il y avait encore des petits problèmes sur les skills techniques. C'est-à-dire qu'ils sont très physiques, sont très forts au pressing. Ils sont techniques puisque lui, il est dans des académies avec de bons joueurs. Mais il dit s'il y a un point d'amélioration, c'est quand même aller sur des skills très techniques parce qu'ils ont tendance à d'abord aller sur les entraînements avec ballon. Maintenant, tout le monde le fait, mais basé sur le physique, quoi.
Ouais, c'est sûr que la culture des États-Unis, c'est vraiment le physique. Maintenant, les joueurs que moi j'ai été voir, c'est vraiment dans des localités où les gens ils jouent au ballon tout le temps.
Ouais.
C'est pas forcément les académies de foot.
Ça, ouais.
Par contre, avec les enfants, c'est ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller les emmener un peu dans les différentes académies. Je l'avais fait au Japon l'année dernière, par exemple, pour voir la culture japonaise. Là, le but, c'est de l'emmener dans les académies de foot. Vraiment, il y a deux façons de voir le football. C'est d'aller dans les académies, ils font du pur foot, ils entraînent, et là, tu vois un peu le côté pur football. Et t'as aussi les gens qui jouent en dehors, dans les five ou dans les terrains de street un peu autour. Et là, c'est un football différent. Là, j'étais plus dans le côté street que dans le côté football académique.
T'as vu, Sean, les vidéos là, des deux consultants télé-américaines, Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic?
Ouais, je les ai vus. Ouais.
Alors
décryptage.
Vas-y, envoie. Là. Parce que bon, okay. Thierry Henry était vexé un peu, hein, notamment sur une séquence.
On a un doute,
où,
en fait.
On voit qu'un Ibrahimovic est quand même prêt.
Supérieur, t'es d'accord avec ça?
Je pense que Thierry Henry, il en a encore sous le capot. Mais en fait, il s'est fait impressionner par le contrôle là quand il a mis le ballon sur son pied. Ibrahimovic, il a pris un petit coup de pression. Après, il a dit non, je fais plus. Mais je pense que Thierry Henry, s'il veut, il peut mettre la pression à Zlatan. Je verrais bien un petit battle de freestyle entre Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic.
Mais t'as d'ailleurs, il y a un truc, parce que pour l'avoir vu une fois, les foot pro classiques, on va dire, n'aiment pas trop parfois être confrontés à des freestylers. Je me souviens qu'une fois, j'avais fait un tournoi en salle. Il y avait du Gary, des anciens de 98, et que le joueur de freestyle nous avait dit avant, moi, je vais juste essayer de lui faire un truc. Après, je vais être mauvais dans le jeu collectif. Et il avait passé une roulette au-dessus de la tête et il l'avait dribblé. Et en fait, je me souviens que les mecs l'avaient mal pris, quoi.
C'était en quelle année, ça?
C'était
pas en 2011,
toi.
C'était moi.
C'était peut-être
et
toi.
Ouais.
Pas ici le Moulineau.
Oui, exactement. C'était moi.
Vas-y, raconte.
Alors.
Ah ouais. Et ça, c'était pas très bien.
C'était pas bien fini. Il sortait à la mi-temps. Il avait tiré le ballon
avec du gars.
J'étais banni de l'événement.
Banni de l'événement,
c'est à dire qu'à chaque fois que je venais, Bernard Diomède, il m'appelait, il me disait si tu viens, tu joues pas.
C'est l'académie, c'est Diomède organisé.
Exactement. Après, justement, j'avais parlé avec.
T'avais fait quoi, raconte? Parce que moi, je l'ai vu, j'étais sur le banc à côté. J'avais passé le ballon au-dessus de lui, non?
À l'époque, le côté freestyle, c'était vraiment un peu la clownerie. C'est-à-dire, on jouait, ouais, mais ça sert à rien sur le terrain. Donc, ma façon pour contrer un peu l'image, c'était de jouer contre les joueurs de foot. Donc, dès qu'il y avait un événement où, voilà, il y avait des joueurs de foot, mon but, c'était de m'incruster un peu d'une certaine façon et de jouer contre eux et de le mettre un maximum de gestes techniques. Bien que c'est pas des gestes techniques que tu vas utiliser sur un terrain de foot, mais au moins, j'arrivais à faire la comparaison. Et du coup, c'est Fiu, j'avais fait son clip 3-4 jours avant. Et grâce à lui, il m'a fait rentrer sur le terrain et j'ai pu faire le match et je savais directement ce que j'allais faire. Et mon but, c'était de récupérer les clips. Et déjà, à l'époque, il n'y avait pas forcément les réseaux, mais mon but, c'était de capturer les images et les mettre en ligne. Et Dugarry, il avait vraiment pas aimé. Mais après, j'en ai parlé avec lui. Et j'avais dit, justement, j'ai dit, écoute, ça, moi, toi, ta carrière, elle est déjà finie. Moi, je commence ma carrière. Si jamais, en fait, je capitalise pas sur ce genre de choses, je vais toujours rester le freestyler qui fait des shows. Donc, ma façon d'un peu de casser un peu les codes, c'était ça. Et c'était, et en
parce
plus,
que ce truc-là, c'était dans un match. C'était pas du tout, tu vois, juste en.
Oui,
contre
bien sûr, bien sûr.
À l'intérieur d'un match, comme ça.
Oui, ils aiment pas trop ça.
Ils aiment pas trop ça.
C'est normal, c'est logique. Je comprends. Mais après, il en a mis des petits ponts, Dugarry. C'était réputé pour un joueur technique à la base.
Donc justement,
moi, par exemple, quand il y a un joueur de freestyle ou de street qui vient face à moi, il y a plein de petits jeunes qui me défient partout. Je refuse jamais le duel. Et il y en a, ils m'ont déjà mis à l'amende. Et j'ai déjà reposté les vidéos. D'ailleurs, il y a un petit du Brésil. Un jour, on a fait un contrat dans une favelas. Il m'a rempli. J'ai posté la vidéo. Et l'agent de Neymar, il m'a contacté. C'est qui ce petit et tout?
Sérieusement.
Je l'ai envoyé et tout. Ouais, je suis sûr.
Et il devient quoi ce petit, tu sais?
Et il a été en São Paulo FC, futsal, 2 ans. Parce qu'ils l'ont passé plutôt au futsal. Et après, bon, il a pas.
Apparemment, il s'appelle Ryan, il était titulaire ce soir contre l'Écosse.
Ah, peut-être.
Mais il t'est arrivé d'autres histoires comme ça, un peu rocambolesques, ou c'était la seule?
Des embrouilles avec des joueurs pro.
Qui c'est qui a mal pris? Non, c'était vraiment le seul qui a mal pris. Et après, il y en a un autre qui a vraiment mal pris aussi, c'était Marcelo. Marcelo, à l'histoire, c'est
le latéral du Brésil,
Real Madrid.
Ouais.
Et du coup, en gros, Marcelo, ce qui s'est passé, c'est que il m'avait invité pour le lancement de sa chaîne YouTube. À l'époque, j'étais vraiment bon sur YouTube, j'avais beaucoup de statistiques. Donc, du coup, il m'avait invité pour le lancement de sa chaîne YouTube. On avait fait une collaboration et on n'a pas pu la finir jusqu'à la fin. Okay. Donc, j'ai dit, on fait une petite revanche. Et dans la fin de la vidéo, normalement, c'était un contre un. Et moi, 4 ans auparavant, j'avais mis un petit pont dans un tournage avec Adidas. Ok, mais Adidas m'avait demandé de ne pas mettre la vidéo.
Okay.
Donc, j'avais respecté. Et du coup, quand je l'ai relancé pour faire la deuxième partie, il répondait pas. Je dis, si tu veux pas répondre, je vais poster la vidéo. Quand j'ai posté la vidéo, il a pas aimé du tout. Il m'a envoyé un message sur le moment.
Ah ouais, il a dit quoi?
Il m'a dit, ouais, c'est pas juste. Tu t'es invité à la maison du Real. C'est pas cool ce que t'as fait de mettre la vidéo et tout. Et je dis, mais ça fait 4 ans, la vidéo, c'est tranquille, tu vois.
Ouais.
Et du coup, il l'a.
Donc en fait, eux, ils se sentent ridiculisés si tu mets la vidéo sur Instagram, etc. C'est pas bon pour leur image.
Exactement.
Ils en sont là.
Non, je pense que avant c'était comme ça. Ouais. Avant, les gens, les footballeurs n'aimaient pas vraiment. Maintenant, c'est plus démocratisé. Où t'as vu des fois Neymar, il a pris des petits bons par Lisa, par Street Pana, c'est des freestylers. Et tu vois très bien qu'ils rigolent.
Bah oui.
En fait, le plus ils rigolent.
Et parce que le problème, ce que je comprends pas, c'est que pour les joueurs de foot, c'est deux métiers très très différents et personne va dire il a pris un petit pont par Sean Freestyle, il est nul au foot, ou ça va décrédibiliser ce qu'on peut voir en Ligue des Champions le mardi et le mercredi. Ça, j'arrive pas à comprendre.
À l'époque, c'était le cas. Maintenant, je pense que maintenant c'est démocratisé et que c'est normal. Les gens arrivent à faire la différence. Mais à l'époque, on comprenait pas qu'un mec qui était technique ne jouait pas sur un terrain de foot. Maintenant, on sait faire la différence. On sait que le freestyle c'est différent. Que moi, je serais jamais joueur de foot pro et que je pourrais pas faire ce qu'il fait sur un terrain.
Mais il y a un rapport qui est intéressant sur le côté de l'humiliation ou pas. Parce que sur un terrain ou sur un five, peu importe, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, moi. C'est que les gars qui apprécient à ce point de passer juste en un contre un avec un petit pont. tu vois, se disent que le truc est fait quoi derrière. T'as beau ne pas finir l'action, ne pas avoir une occasion derrière, un but, ils s'en foutent, ils t'ont mis le petit pont. Tu vois, et ça, cette culture-là, qui est pas du tout la mienne d'ailleurs pour le coup, bah, ça m'a toujours surpris parce que derrière ça donne rien, mais c'est pas grave, tout le monde est mort de rire, tu sais, t'as le traditionnel grillage, tu vois, le machin, mais c'est un truc, il y a un petit rapport d'humiliation quand même dans
bien sûr,
dans ça.
Exactement. C'est quoi la question qu'on t'a le plus posée depuis 15 ans, 20 ans, Sean?
Je pense que c'est est-ce que tu peux être footballeur
professionnel? Ouais, voilà, c'est ça.
Tout simplement, c'était la plus grosse question. Et j'ai pas réussi à être footballeur professionnel. C'est pour ça que j'ai fait du freestyle, justement. C'est que j'ai pas réussi, mais je voulais rester dans la carrière avec le ballon. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est venu un peu de façon naturelle. J'ai jamais vraiment planifié d'avoir cette carrière-là. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai choisi, mais j'ai compris un peu les codes et ce que je pouvais faire avec. Maintenant, après, ce que j'ai compris après toutes ces années, c'est que je vois ça comme du MMA. Tu vois, le MMA, il y a différentes disciplines dans le MMA. Et du coup, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné à tous les sports de football. Le futsal, le street football, le freestyle. Et du coup, j'ai appris toutes les types de techniques. Et on va dire que maintenant, je suis, on va dire, un péri-footballeur complet. Tu vois, tu me mets sur n'importe quel terrain, je vais être capable de faire quelque chose. Et alors que les footballeurs à 11, ils vont se concentrer que sur le match à 11. Mais c'est le sport le plus gros. Tu dois te concentrer que sur ce match-là.
Toi, tu kiffes le foot?
Ah, moi, je kiffe le foot, je regarde le match.
Je suis un passionné de foot,
j'écoute tous vos.
Écoutez RMC, After Foot, tout ça.
Voilà, ma femme, elle en a marre, mais voilà, truc.
T'as vu des matchs?
J'ai vu des matchs, j'ai vu l'Algérie-Argentine. J'ai vu.
Au stade, là, je précise.
T'as vu Léo Messi?
Ouais, j'ai vu Léo Messi, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable.
L'ambiance, elle était folle?
Elle était folle, on était au milieu des Argentins, c'était vraiment incroyable. On a essayé de crier pour l'Algérie, mais on faisait pas de bruit. Mais c'était top. Après, on a vu France-Irak, il a plu. Ça, c'était
ouais, compliqué.
C'était galère. Et franchement, les Irakiens, ils faisaient plus de bruit que les
Suisses. Mais carrément.
J'ai pas compris ça.
Je sais pas si on l'a dit, mais.
Non, on l'a pas dit.
Il y avait, je pense, à peu près autant, voire un peu plus d'Irakiens, mais la différence n'était pas énorme. On n'entendait que les Irakiens.
J'ai pas compris.
À un moment, il y a eu une Marseillaise timide qui est sortie du stade, mais pas grand chose. Les Irakiens étaient beaucoup plus bruyants. Ça, c'est dingue.
Ouais,
voilà, quoi. Ça, France-Irak, Argentine-Algérie et.
Là, normalement, il y a France-Norvège. On va essayer de.
À Boston,
exactement. Et après, bah, je vais voir. Ça tout dépendra des possibilités et tout.
Je pense aux gens qui disent tes places, tu les payes pas, on est d'accord.
Quand non, je suis souvent invité.
Et ça donne quoi aujourd'hui, maintenant, l'économie autour des freestylers, toi qui avais ouvert la voie à un moment donné. Aujourd'hui, c'est quoi le business, toi, même ta carrière, comment elle a évolué, comment t'as, avec le recul, comment tu vois tout ça?
Il y a trois business models. Le premier, c'est celui que j'utilisais à l'époque, c'était les shows. Les performances live, voilà, faut être très très présent, faut faire des shows de freestyle avec les techniques et tout. Le mieux, c'est si tu fais du freestyle et du pana. Le pana, c'est le fait de jouer contre les gens et mettre des petits ponts. Mmh. Donc quand tu sais faire les deux, tu peux interagir avec le public. Donc du coup, tu montres que tu sais jouer un peu d'une façon différente. Ensuite, il y a eu les réseaux. Une fois que les réseaux sont venus, moi j'avais déjà compris le fait de créer du contenu et de poster depuis des années. Donc en fait, la transition était très rapide et j'étais vraiment un des plus connus dès le départ. Donc faire du contenu en live, c'est ça qui a permis de multiplier les opportunités, de faire et des shows et du réseau social. Et après maintenant, les deux freestylers se font les deux quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des shows, il y en a qui font des réseaux sociaux. Maintenant, moi ce que j'aime pas, c'est qu'un freestyler, il est obligé de changer de type de contenu pour être connu sur les réseaux. Et il va pas trop montrer sa technique, il va plus montrer l'attractivité des contenus. Ça me dérange.
Ça veut dire quoi, l'attractivité des contenus?
Ça veut dire que, par exemple, des fois, il va falloir faire des choses un peu bêtes sur les réseaux pour capter l'attention. Mmh, alors que le mec, il est plus talentueux que ça. Okay. Donc, du coup, pour cette réponse, moi, j'ai créé un format de jeu qui s'appelle l'UBF 1 contre 1. C'est un format qui a cartonné, hein. Il y en a plein qui l'utilisent maintenant. C'est un gardien et deux joueurs.
Okay.
Qui jouent les uns contre les autres. Et du coup, c'est le tournoi que j'utilise là aux US. Ça fait peut-être 7 ans que je fais ça. Je fais le tour de tous les communautés, je vais au Brésil, je vais dans les favelas et tout. Et en fait, mon but, c'est de créer un format où les joueurs peuvent montrer qui ils sont, leur personnalité, mais n'ont pas besoin de créer une autre personnalité pour pouvoir buzzer sur les réseaux. Et là, ça fait le buzz.
T'es obligé de te réinventer, parce que toi, t'es arrivé en quelle année?
2006.
Comment on fait pour durer et pour continuer à impacter sur les réseaux sociaux avec les canaux qui ont changé, le modèle qui a changé pour rester dans le coup? C'est dur, non?
C'est très très dur. Il faut analyser, faut comprendre, faut être passionné, je pense. Aujourd'hui, mon but, c'est d'être le Dana White de l'UBF. Tu vois, c'est de trouver les talents et de créer les bonnes histoires. Imagine, je vais en Algérie, je fais un tour et d'un coup, je trouve le meilleur joueur de 1-1 algérien et je fais la même chose au Maroc. Et là, je crée un Algérie-Maroc en 1 contre 1, backup par peut-être le plus gros influenceur de l'Algérie, le plus gros influenceur du Maroc. Et du coup, je crée un mouvement autour de ces deux personnes. Mais pas que, mon but, c'est d'influencer tous les petits qui vont regarder et de leur dire, voilà, la façon d'arriver, c'est de faire ça. Et là, je suis en train de créer une application, je suis en train de créer des tournois mobiles et tout. Et mon but, c'est ça, en fait, c'est de créer un écosystème où les petits, ils ont quelque chose à faire et ils voient le pathway, tu vois.
Est-ce que parfois tu en as marre de jongler tout le temps? Jongle, Sean. Est-ce que tu peux jongler, Sean Freestyle? Est-ce que tu peux jongler?
En gros.
Enfin, on a toujours un peu marre. C'est comme ça que ça a commencé. La question de Valide est hyper intéressante. Et au bout d'un moment, c'est bon, laissez-moi tranquille, tu vois. Voilà.
En fait, j'ai compris mon pourquoi. Tu vois, moi, je fais pas ça pour jongler. Je fais ça pour connecter avec les gens. Par exemple, être avec vous et partager ce que je fais, c'est vraiment ça mon plaisir et ma passion quand je fais du freestyle. C'est de connecter avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Au début, je le faisais qu'avec le ballon. Maintenant, j'arrive à m'exprimer, que ce soit en français, en anglais et tout. Et du coup, maintenant, j'ai plus forcément besoin de jongler. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de faire un contenu. Et c'est pas de problème. Mais du coup, j'ai vu la passion dans la personne qui était en face de moi et j'ai compris pourquoi il le faisait.
Loïc Lefort.
Exactement.
J'étais ému. D'ailleurs, tu vas en refaire un tout à l'heure en direct sur RMC.
On m'a dit
c'est
ça.
Hyper radiophonique, c'est génial.
On m'a dit ça.
Mais il y a des caméras quand même. Il y a YouTube, il y a Afterfoot TV. Attends, c'est reparti. Ouais. Sur les matchs, excuse-moi Flo, si je peux me permettre de te couper.
Bien sûr, avec
la
plaisir.
Parole.
Avec plaisir, je parle très peu déjà, mais c'est pas grave.